VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakiza avec vous dans ce bulletin d'information. Le chanteur ivoirien NST Koffiz, vedette de la musique africaine dans les années 80 et 90, auteur du tube Zogoda Zoué, est décédé dimanche à New York à l'âge de 55 ans, annoncé son petit frère Dr. Jan Kwadjo. La journée internationale de la femme, les Soudanaises veulent davantage de droits. Elles avaient été à l'avant-garde de la contestation du régime du président Omar El-Béchir. Mais 11 mois après sa chute, des militantes soudanaises se disent déçues par le peu d'empressement des nouvelles autorités à améliorer leurs droits. Et c'est pour crier haut et fort leur frustration que des dizaines de ces militantes ont manifesté dimanche à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme devant le siège du ministère de la Justice à Khartoum. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, au pouvoir depuis 6 mois, a confié 4 des 17 postes ministériels à des femmes, dont celui régalien des affaires étrangères. La journée internationale de la femme, c'est un jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques, dit l'ONU. C'est aussi une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes, selon l'ONU. Le monde a réalisé des avancées sans précédent, mais aucun pays n'a encore atteint l'égalité des sexes. Des restrictions légales ont empêché 2,7 milliards de femmes d'accéder au même choix que les hommes en matière d'emploi. Moins de 25% des parlementaires étaient des femmes en 2019. Et une femme sur trois fait toujours l'expérience d'une violence basée sur le genre. Une position de l'armée nigérienne a été violemment attaquée samedi par des combattants lourdement armés de Boko Haram à Chetima-Wangu, dans le sud-ouest du pays, proche du Nigeria. Cette attaque survient après une accalmie depuis fin 2019 dans la région de Diffa, ciblée depuis 2015 par des islamistes de Boko Haram. Un haut commandant des islamistes radicaux somaliens, Bachir Mohamed Mahmoud, alias Bachir Kolgab, a été tué par une frappe aérienne américaine le 22 février dans le sud de la Somalie, selon l'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. Deux manifestants algériens qui avaient grièvement blessé un policier en mai dernier ont été condamnés dimanche par un tribunal d'Alger à 4 ans de prison ferme. C'est ce qu'a dit le Comité national pour la libération des détenus, une association de soutien. Sur les États-Unis, l'ancien vice-président américain Joe Biden a reçu un nouveau soutien de poids dans sa course à la Maison-Blanche, celui de la sénatrice Kamala Harris, en tant que candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à devenir le prochain président des États-Unis », a-t-elle écrit dans un tweet accompagné d'une vidéo expliquant son choix. Et dans le duel qui l'oppose désormais à Joe Biden, Bernie Sanders, euro de l'aile gauche du parti, a lui aussi reçu aujourd'hui le soutien significatif de Jesse Jackson, célèbre militant des droits civiques. Le pape François, qui a pour la première fois récité sa traditionnelle prière dominicale de l'Angelus par vidéo depuis sa bibliothèque privée, s'est déclaré proche des malades du coronavirus et de leur personnel soignant. Le souverain pontife a également convenu que cette prière prononcée par un pape en cage dans sa bibliothèque était un peu étrange. Après la prière de l'Angelus, le pape a eu une pensée plus spécifique pour les personnes affectées par le coronavirus dans le monde. Le pape a demandé aussi dimanche aux fidèles de prier avec lui pour le peuple syrien. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info. et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous revenons sur le rôle des confessions religieuses dans la politique. La conférence épiscopale de la RDC accuse la coalition au pouvoir de prendre en otage le peuple sur la base d'un accord occulte et dénonce l'enrichissement scandaleux de quelques responsables politiques. Au Mali, l'imam Diko a lancé un mouvement politique qui mobilise beaucoup de monde et son mouvement a dissuadé d'ailleurs la comparution de l'imam Diko qui a été convoqué pour avoir tenu des propos subversifs. Les évêques du Togo dénoncent le manque de transparence et d'équité de la présidentielle du 22 février et récemment, le clergé en Côte d'Ivoire a attiré l'attention sur la tension politique qui prévaut dans le pays. Nous faisons donc un tour d'horizon de tous ces pays dans ce dialogue des religions et nous avons un invité, c'est un professeur des sciences politiques, Marc Papé. Bonsoir.
Bonsoir Cédric, comment allez-vous?
Ça va très bien. Je rappelle que vous êtes professeur des sciences politiques à St. John Fisher College, c'est à New York. Voilà la question qui s'oppose toujours, les religieux ou les confessions religieuses doivent se mêler de la politique?
Mais la réponse est toute simple et historiquement correcte. Oui, mais bien sûr, que ce soit l'Église, que ce soit la religion musulmane et tout, la religion a toujours été, si ce n'est pas le premier pilier, mais au moins un deuxième pilier de la politique dans tous les pays du monde et depuis le début de l'histoire du monde. Donc il n'y a aucune surprise à ce qu'aujourd'hui, il y a des incursions, des manifestations, des tendances, des entrées peut-être ostentatoires de la religion en politique dans les pays que vous avez cités. C'est tout à fait normal. On ne peut pas, par exemple, parler de politique au Sénégal sans parler des mourides et de toutes les confréries religieuses qui sont au Sénégal. C'est impossible. Je n'ai absolument aucune surprise. Ce n'est pas surprenant de ma part.
Oui. Depuis quelques années, on voit une implication très, très visible des confessions religieuses dans le débat public. On voit qu'ils ne prennent pas beaucoup de gants et qu'ils s'expriment sans détour. Est-ce qu'on peut dire que il y a quelques années, nos États étaient mieux organisés et que l'Église n'était pas obligée de s'exprimer comme elle est fait actuellement?
Je ne pense pas que ce soit dû au fait que l'Église était mieux organisée ou bien que la société était mieux organisée, mais c'est que dans l'Afrique dite francophone, soyons honnêtes pour le dire, il y a ce mythe d'une séparation étanche. Bon, bien sûr, je ne suis pas en train de remettre en question le principe de la laïcité que j'épouse moi-même, qu'en principe, il doit y avoir séparation entre l'Église, ou bien, enfin, entre la religion et la politique, c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est quand on maintient cette artificialité en disant que les institutions religieuses ne peuvent pas s'impliquer dans la politique, c'est ce qui est, à mon avis, un mythe artificiellement créé dans nos pays. Mais sinon, l'Église en tant qu'institution, quand je dis l'Église, je veux dire les religieux, les religions institutionnalisées, et les individus sont aussi des citoyens de leur pays. Donc, s'il y a, ils voient une menace qui est pesée sur leur communauté, qu'elle soit nationale ou bien régionale ou bien religieuse, ils ont l'obligation, à mon sens, de s'exprimer librement. C'est un droit constitutionnel, à mon avis. Donc, peut-être qu'il y a cette visibilité parce qu'ils interviennent, ces institutions interviennent dans des processus d'élection présidentielle et ce qui rend leur présence visible, peut-être que c'est ce qui gêne. Mais sinon, je ne vois vraiment pas d'incompatibilité ni constitutionnelle, ni autre légale, ni simplement le bon sens impose que toute organisation religieuse puisse intervenir. Ça, c'était dans tous les pays du monde, y compris ici. Donc, je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une exception africaine.
Si cette exception devrait y avoir, on pouvait aussi s'interroger si les politiciens avaient le droit, par exemple, d'aller prier à l'église ou à la mosquée ou je ne sais pas quoi.
Oui, ils ont tout à fait. Le droit, le politicien est un homme libre et l'une des libertés politiques, c'est la liberté de confession religieuse aussi, ou de ne pas avoir de religion. Donc on ne peut pas priver le politicien de ça. Maintenant, ce sur quoi il faut absolument être clair, c'est de dire, par exemple, parce que moi, en tant que politicien, j'impose mes perceptions religieuses sur le reste de la communauté du pays ou bien de la communauté. Ça, ce serait manifestement une intrusion contraire au bon sens et aux lois établies de la religion. Mais toute personne, parce que si vous êtes un politicien, vous devez être mû dans vos actes par des types, des valeurs. Et ces valeurs peuvent avoir une origine chrétienne. Donc, je ne vois pas, enfin, pourquoi, ou quelquefois, comment on appelle, la religion peut être une source d'inspiration, une source de renforcement spirituel, de renouvellement spirituel de la part d'un politicien. Donc, ce n'est pas là mon inquiétude réellement. Mon inquiétude serait de dire que, ok, puisque je crois en telle religion, alors j'impose ma religion sur le monde, ou bien je prends une telle décision à cause de mes perspectives religieuses. Ça, ce serait manifestement contraire au principe de la laïcité dont j'ai parlé tout à l'heure.
Professeur Papé, gardez la ligne. On va recevoir un auditeur qui est avec nous. C'est Ben Benoît Congolais qui se trouve à Kinshasa. Ben, bonsoir.
Bonsoir à M. Lewis et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous avez la parole.
Oui, de ce que moi je connais, un homme politique est libre, comme mon prédécesseur vient de le dire, mais il n'est pas tout à fait libre parce qu'il est sans religion, il est nulle part. Cette personne a l'inspiration. Si on parle de l'inspiration, c'est-à-dire on voit la voix divine. Quand il associe tout ce qu'il est en train de faire avec la parole de Dieu, il doit travailler en bonne et due forme et il doit être intègre dans tout ce qu'il fait. Mais s'il écarte la religion, c'est-à-dire la parole de Dieu, carrément, il doit commencer à faire ce qui est maladroit. Vous comprenez pas dans le sens. Nous sommes en train de vivre ça avec l'ex-président de la République qui vient de nous tout l'air de fait. Lui, il ne comptait pas ni quoi il s'appelle religion. Il était basé sur des religieux. Il est emprisonné, il est malmené et tout comme ça. Mais voilà l'ascenseur aujourd'hui. Tout le peuple du monde qui soit emprisonné. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les quoi d'abord et les fondements de l'homme. Quand tu connais la religion, tu dois connaître de quoi initier la personne que tu es en train de diriger. Sans la religion, la politique est nulle. D'après ce que nous sommes en train de penser, nous sommes en train encore de continuer à vivre cela. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a un peu partout la sécurité, puis il y a la guerre, il y a tout comme ça, parce qu'on n'associe pas Dieu dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes devenus des gens occultes qui ne connaissent plus encore la force divine, qui commencent à associer d'autres forces avec tout ce qu'ils sont en train de faire et rejettent la force qui a créé la personne en question qui est en train de faire la politique.
Ben.
La politique, c'est juste là, oui.
Donc pour vous, vous soutenez l'action des religieux dans la politique.
franchement, mais ce religieux, notre père, doit aussi être intègre, honnête, et non des hommes corruptibles. Ils doivent vraiment suivre ce que dit la Bible. C'est dans le sens que là, d'autres, tels que je suis ici avec la Cinco pour ce Vénata, ou suivant le Monseigneur Ambongo, qui reçoit des cadeaux de part et d'autre.
Merci. Merci Ben pour votre contribution. Nous avons Jonathan Chiswaka qui est à Kinshasa également. Chiswaka, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous écoute, Chiswaka.
Moi, je suis d'avis que les religieux doivent s'initier, doivent participer à l'action
politique, économique, oui. Sociale.
Mais, économique et sociale. Mais c'est le fait de faire avec, sans, avec impartialité. Comme le cas est celui de la CENCO, qui a pour un haut gradé ou un chef religieux, le cardinal, qui est cousin, qui est frère à un homme politique, à Jean-Pierre Bemba, le cardinal du Congo et le frère de Jean-Pierre Bemba. Mais il s'initie dans la politique pour le profit de son frère, alors que même la population demande aux politiciens de penser toujours au peuple, mais lui s'initie dans la politique pour que son frère puisse bénéficier. Ça, c'est un cas qui ne doit pas être toléré dans certains autres pays. On s'initie à la politique en tant que religieux, en étant au milieu du village, pas en étant d'un camp contre l'autre, visiblement, et pratiquement comme ça s'est fait ici, avec la CENCO, qui se voit que le pouvoir en place est en train de faire perdre un peu de sa puissance, parce que le combat qui a mené la CENCO pendant le mandat passé contre une dictature, aujourd'hui, on n'a plus la raison d'être, parce que la dictature ne se trouve plus au Congo.
Merci Chiswaka pour votre contribution. Nous avons le commentaire de Alphonse Mbouaki. Les religieux ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes de justice qui ne doivent pas adopter un silence coupable dans le mal. Plutôt, ils doivent dénoncer et condamner les injustices, les abus du pouvoir et la dictature, les vols et la corruption. Les religieux dénoncent ces injustices parce que ils sont aussi confrontés aux mêmes réalités de la vie quotidienne que le reste des citoyens. Nous avons un autre auditeur en ligne, c'est Kassongo. Bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Eric, bonsoir la Vue Afrique.
Vous avez la parole, Kassongo.
Oui, c'est une gloire parce que vous parlez de la religion. Ici, je voudrais relever la politique de l'Église dans la chose politique. C'est vrai que la politique a des animateurs et que l'Église, effectivement, aussi a des animateurs. Eh bien, les deux choses ne doivent pas vraiment marcher ensemble, parce que lorsque nous revenons à l'heure de Jésus-Christ, vous allez remarquer que Jésus était confronté aussi à certains hommes politiques de son temps. Mais alors Jésus qui ne s'était pas lancé dans les choses politiques. Je me rappelle même un terme qu'il avait dit, remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez-vous, mais lorsque on parle de la vie sociale, économique du pays, le prêtre, les animateurs de l'Église peuvent se manifester comme de médiateurs pour réconcilier des camps opposés, pour favoriser également l'unité nationale par un dialogue, comme vous l'avez remarqué avec la CENCO, mais aussi parce que vous avez fait allusion à la récente déclaration de CENCO. Ici, je n'ai rien à voir avec cette organisation qui a aussi beaucoup milité pour l'alternance à la tête du pays. Là, je suis en train d'observer à ce que cette organisation a un penchant, voilà, un penchant du côté d'un camp politique, et la plupart des animateurs de la dite organisation jouent à l'hypocrisie, parce qu'il y a dernièrement des déclarations qui allaient dans le sens de soutenir le pouvoir en place, d'encourager et de fortifier. Ah ben, dernièrement, il y a eu également des déclarations pour dire que le pouvoir en place avait un deal qui amenait le pays dans l'enfer. C'est cette manière de faire, c'est ce que les compatriotes qui sont venus de dire, que les animateurs jouent à l'hypocrisie, et cette hypocrisie réduit l'église de Jésus-Christ. Remarquez aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'abus commis par des animateurs de l'église de Jésus parce qu'ils oublient l'objectif. L'objectif d'un chrétien, c'est de prêcher la bonne parole, prêcher la parole de Dieu, encourager le peuple de Dieu, de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, continuer à favoriser l'amour, aimer, enseigner l'amour. C'est ce que le Seigneur nous a laissé. Il ne nous a pas laissé de pouvoir se lancer dans les affaires politiques pour s'enrichir, pour se faire de maison, pour se faire de parcelles. Mais par contre, Jésus nous a laissé pour que nous puissions enseigner la parole, la bonne parole à ses disciples. Quand il reviendra, qu'il trouve que son église et soit déjà prête pour l'enlèvement, pour le chrétien, mais aussi pour le musulman, l'église où le mosquée, où le Coran nous enseigne l'amour, c'est ce que les animateurs de l'église devraient en fait enseigner aux animateurs politiques.
Merci Kassongo. Nous recevons Junior Kinumbé. Junior, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Je vous écoute.
Oui, moi aussi je pense que les religieux comme les autres citoyens ont du mal à réclamer les choses qui ne vont pas dans un pays, parce qu'ils ont aussi des citoyens entre tous les citoyens avant d'arriver et devenir le religieux, les citoyens. Mais il y a un rôle comme la CENICO le fait ici en RDC. Bon, ça devient un peu gênant parce que la CENCO devient comme si c'était un organe de notre pays. C'est un organe, bon, ça décide, ça dit ceci, ça dit aussi les résultats de l'élection. Bon, en fait, ça nous gêne aussi. On ne sait pas. Parce que nous sommes dans un pays laïque, on ne sait pas pourquoi les religieux commencent à s'approprier les activités politiques de notre pays.
Merci Junior pour votre contribution. Le commentaire de Hassan Québec Omar. La religion occupe une place primordiale au quotidien en Afrique, mais politique et religion, c'est un problème. Raymond Lushima, il dit les religions doivent rester loin de la politique car il y a incompatibilité. La religion prône la paix, amour du prochain, la franchise, la générosité, tandis que du côté politique, il y a le mensonge sans vergogne, la haine, tuerie, querelle, rancune. Du moins, les politiciens doivent se comporter en homme de Dieu et manifester l'amour de la patrie et penser au bien-être des citoyens. Labo, les religions doivent être séparées de la politique car la religion parle toujours de la vérité et rien que la vérité. Gédéon Kota, il dit... Ils vivent dans la société, ils ont le droit d'exprimer leurs opinions d'après leurs analyses et observations. La réalité est que nos dirigeants africains, surtout certains présidents africains, sont des inconscients et sans vision pour leur pays. Amadou Tiamago, moi je salue cette démarche de la part des autorités confessionnelles. S'il faut dire la vérité à ces gouvernants, ces leaders religieux jouent un rôle important en témoignage. En témoigne des événements qui ont fait partir Blaise Compaoré du pouvoir. À un moment donné, les évêques ne soutenaient plus la démarche de l'ex-président burkinabé. Kafo, il dit, on voit que l'Église continue à réclamer la victoire, ainsi il faut toujours des poux sur une tête chauve. Je pense qu'il parle de la RDC. Quand on a un héritage politique comme celui que gère le pouvoir congolais, on ne peut pas s'attendre à une amélioration rapide et spectaculaire à coup d'une baguette magique. Professeur Papé, un commentaire sur ces avis des auditeurs?
Oui, mon commentaire général, deux principaux commentaires généraux. Numéro un, c'est qu'il y a la tendance, dans les commentaires que j'ai entendus, à réduire la religion et son intervention en politique à la religion catholique, ce qui est une erreur, à mon avis. L'Afrique a un triple héritage du point de vue religieux. Il y a la plus grande religion, qui est la religion traditionnelle africaine, et puis l'islam et le christianisme, qui sont les deux autres grandes religions en Afrique. Donc, il ne faut pas qu'on réduise, l'immersion des gens sur le comité religion politique à une de ces trois religions. Ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, c'est que ceux qui sont pour la dichotomisation étrange entre religion et politique se basent non pas sur des faits, sur la réalité concrète, historique et choses, et pensent que c'est un phénomène uniquement africain. Non, partout dans le monde, la religion et la politique se sont toujours mélangées. Par exemple, on ne peut pas parler d'effondrement de l'Europe de l'Ouest, en particulier la Pologne, sans l'intervention du pape Jean-Paul II, qui lui-même était originaire de la Pologne. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait religion et politique. C'est peut-être le type de religion ou bien la manière d'intervenir qui est questionnable, à remettre en question. Sinon, le principe même, moi, je serais très, 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 très suspicieux et méfiant d'institutions religieuses qui ne prenaient de leurs adhérents, de leurs adeptes, que comme des êtres qui n'attendent que le ciel pour pouvoir compatir à leur situation concrète humaine. Je pense que ceux qui sont pour cette séparation-là, ils ne basent pas leurs commentaires sur les faits, sur la réalité, et deux, sont un peu réductionnistes en termes de trois religions qui sont l'héritage de l'Afrique.
Et puis, leur action n'est pas motivée par la conquête du pouvoir. Nous avons Diallo Tchernon, Omar Diallo, qui dit que l'imam Diko devrait analyser le contexte du Mali avant de se lancer dans un mouvement politique. Il dit en politique qu'il y a trop de risques, qu'il fallait juste d'autres moyens pour dénoncer les manquements du régime Ibeka que de se jeter en politique. Un mot sur l'avis de Tchernon?
Je respecte ce point de vue-là. S'il y a une religion particulière devient un parti politique, parti politique veut dire une partie, alors que la religion est supposée être un peu universelle à l'échelle de la nation, je veux dire. Donc ça, c'est peut-être problématique. Mais encore une fois, ce n'est pas le fait d'un parti politique religieux qui est une nouveauté. Il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a des partis politiques carrément religieux. Et c'est à leur risque et péril parce qu'ils sont un peu aussi contraints. Ce n'est pas une nouveauté. Mais personnellement, je ne voudrais pas encourager ce type de politisation partisane de la région.
Et puis les droits politiques et civils leur donnent aussi ce rôle, et c'est inscrit même dans plusieurs constitutions de ces pays.
Exactement, tout à fait. Donc je n'encouragerai pas des partis politiques religieux. Parce que je pense que les frères qui sont pour la séparation étanche, si je comprends très bien leur argument, ce n'est pas le principe même que la religion entre dans la politique, parce que les deux sont des biens publics, des choses. Donc ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit ça qu'ils dénoncent réellement, mais c'est les dérives potentielles de l'extrême religion en politique.
Merci, professeur Marc Papé, pour votre contribution dans ce dialogue des religions consacré sur le rôle des confessions religieuses dans la politique. Eric Manila Kiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.